Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous sommes en train de parler de la liberté cette année. Amen. Et nous parlons de la liberté parce que c'est où nous voulons arriver. Amen. C'est pour la liberté, c'est marqué ici, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Amen. Gloire à Dieu. Et on est en train de toucher plusieurs différents sujets. Et donc, ce week-end, j'ai mis dans mon cœur, oui, de parler de libérer ou libre de la crainte. Dis avec moi, libre de la crainte. Donc, je ne sais pas combien de versets il y en a. Quelqu'un a dit qu'il y a 365 versets qui disent « ne craignez pas ». Ouais, pourquoi 365? Quelqu'un dit c'est pour chaque jour de l'année. Amen. Donc, nous allons parler d'être libre de la crainte. Et le verset que le Seigneur m'a donné, il y en a plein qu'on pouvait regarder, c'est en Hébreux 13, verset 6. Il dit « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien ». Amen. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais chaque semaine, je choisis un verset que j'appelle mon verset clé. Et vous savez, vous pouvez marquer ça et apprendre ça d'abord par mémoire, ouais, et après, méditer ça jusqu'à ce que ça descende dans votre cœur et que ça prend place. Il faut assimiler la parole dans notre être intérieur. Dis avec moi, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. En pourcentage, c'est combien? Zéro, n'est-ce pas? Pour que ce soit clair, d'accord? Je ne craindrai rien. On va faire une bonne déclaration. Si vous avez votre Bible ou votre téléphone, votre tablette, je sais pas où vous lisez votre Bible, c'est très bien. Dites ceci avec moi. Voici ma Bible. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Par conséquent, je plonge mes regards dans la parole de Dieu, la loi de la liberté. Et je persévère en n'étant pas un auditeur oublieux. Je le mets donc en pratique afin d'être heureux dans mon activité. Ce que je crois dans mon cœur et je déclare de ma bouche se manifeste dans ma vie au nom de Jésus. Amen. Donc on va parler d'être libre de la crainte. Oui, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Donc, je ne sais pas si vous faites cela encore, mais je le fais parce que je suis anglophone d'origine, britannique, oui, en France maintenant depuis presque 30 ans, mais encore quelques paroles, je ne suis pas sûr. Est-ce que c'est libre de la peur ou libre de la crainte? Donc, je regarde dans la dictionnaire sur la crainte, il parle du peur, dans la dictionnaire sur la peur, il parle de la crainte. Je ne sais pas si quelqu'un a une définition qui différencie les deux, mais ils sont tous les deux. Oui, écoutez-moi bien, la crainte et la peur sont diamétralement opposés à la foi. C'est l'opposé de la foi. Amen. Et nous savons que c'est par la foi que nous faisons plaisir à Dieu. Amen. Que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent, nous cherchons Dieu. Amen. D'accord. Mais sachez ceci, la crainte, la peur est le contraire de la foi. La foi a confiance en Dieu, a confiance dans sa parole. La foi attend toujours le meilleur. Oui? Par contre, la crainte, la peur, regarde toujours les circonstances. La crainte et la peur écoutent les bruits qui courent. Oui? La crainte et la peur attend toujours le pire. C'est vrai ou c'est pas vrai? Amen. Nous avons parlé la semaine passée, donc, que je suis libéré par mes paroles. Et je veux vraiment, oui, vous encourager à mettre une garde sur votre bouche et de faire attention de ce que vous êtes en train de dire. Parce que Jésus a dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Amen. Et si nous avons permis à la crainte de se reprendre place dans notre cœur, il faut le faire sortir. Et nous sortons en refusant de dire « j'ai peur que, je crains ». Ça va? On va vite parcourir quelques versets, parce que c'est tellement important pour nous d'entrer dans la liberté. En Osée 4, 6, il est marqué « mon peuple est détruit ». Par les gens du monde, mais Dieu dit « mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Nous n'avons pas d'excuse. Nous devons prendre notre responsabilité en main. Oui. Jésus a dit, Jean 14, 6, oui, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et en Jean chapitre 8, verset 32, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Il a dit, je suis la vérité. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, Galates 5, 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tout le monde dit, Dieu veut que je sois libre. Il veut que vous soyez libres, les amis. Amen. Hallelujah. Et nous voulons que vous soyez libres aussi. Nous avons un petit cadeau pour vous. À la fin de la célébration, on ne va pas les distribuer, mais un exemplaire par famille de ce livre de Kenneth Copeland, Libéré de la peur. D'accord? Donc, il faut que vous allez vous rendre à la table des livres, vous demander, ils vont vous donner un par famille. C'est bon? Si vous n'allez pas, vous ne partirez pas avec. OK? Ce que j'ai décidé de faire, c'est de préparer mon message que j'avais à cœur avant de lire le livre. J'ai lu la moitié pour l'instant pour assurer que je ne prêche pas ce qui est déjà ici. C'est un livre absolument formidable. C'est vraiment remarquable. Est-ce que quelqu'un a déjà lu ce livre? C'est vraiment exceptionnel. Donc, mais il y a un cadeau pour vous, donc à la table des livres de ce livre, Libéré de la peur. Pour ceux qui nous écoutent par Internet, on vous salue. Beaucoup de gens sont en train d'écouter nos messages. Vous pouvez avoir ce livre. C'est écrit par Kenneth Copeland. Oui. Vous pouvez aller sur les sites Internet, sur ma boutique ou Gospel Diffusion, ou vous pouvez aller dans un bon livre chrétien comme CLC et avoir ce livre. Par contre, il faut l'acheter là-bas. Il faut préciser les choses, n'est-ce pas? Vous imaginez quelqu'un entre dans une bonne librairie chrétienne et dit « Pasteur John a dit que je peux avoir... » Hallelujah, gloire à Dieu. Amen. Juste avant qu'on entre dans le vif du sujet, je voulais parler de l'importance de ce qu'on lit dans la parole. Chaque livre dans la Bible, chaque épître a une raison d'être. Et souvent, nous commençons à la fin de l'épître ou du livre, la raison d'être de ce livre. Quelquefois, c'est plutôt à la fin, mais nous apprenons beaucoup de choses. Je vous garde quelques versets en 2 Timothée 3, 16. Pourquoi je dis cela? Parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont en train de compliquer les vies des gens et plutôt lier les gens que les libérer. Et comme nous avons vu la semaine passée, oui, la liberté, c'est un thème qui traverse la Bible. Nous avons cet immense exemple du peuple d'Israël dans l'esclavage en Égypte qui sont libérés, oui, par la main puissante de Dieu. C'est une image de notre rédemption, de notre libération du monde du péché. Vous vous rappelez qu'on a parlé du fait qu'ils ont tourné dans le désert parce que même qu'ils étaient libérés physiquement de l'esclavage des Égyptiens, ils avaient toujours dans leur tête et qu'ils étaient, des esclaves et ils ne pouvaient pas. Amen. Et c'est pourquoi nous avons besoin de renouveler nos pensées avec la parole de Dieu. En 2 Timothée 3, 16, il est écrit que toute écriture, combien? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Tout le monde dit corriger. Avez-vous besoin d'être corrigé? Pas tout le temps, mais quand je vais dans la mauvaise direction, j'ai besoin d'être corrigé. Ouais. Je suis désolé, mais c'est souvent les stupides qui ne veulent pas être corrigés. Et nous ne sommes pas stupides, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que la Bible dit que l'intelligent cherche Dieu. Vous êtes venu chercher Dieu ce matin, donc vous êtes des intelligents. Amen. Pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme ou la femme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et nous voulons être accomplis, nous voulons réussir, nous voulons prospérer. Amen. À la gloire de Dieu. Amen. Donc, quand nous lisons la parole de Dieu, il faut poser quelques questions. Une des questions, oui, c'est quel est le but de ce livre? Quel est le but de cette épître? Pourquoi est-il écrit? Qui a écrit? À qui a-t-il écrit? Oui. Qui est en train de parler? Oui. Est-ce que c'est Jésus qui parle? Est-ce que c'est le diable? Oui. Est-ce que c'est écrit aux croyants? Est-ce que c'est écrit aux infidèles? Oui. Ça parle à l'Église ou ça parle au monde? C'est toutes sortes de questions qu'on a besoin de poser quand on lit la Bible. Vous êtes d'accord? Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà appris ceci, mais on peut dire n'importe quoi par la Bible. Quelques personnes disent, mais j'ai lu un livre chrétien. Je dis, mais comment vous avez su que c'était chrétien? Ah, parce qu'il y avait des versets dedans. Vous savez, les gens du monde utilisent des versets bibliques dans leurs livres et tous les sectes qui lient les gens, ouais, c'est la différence entre l'Église de Jésus-Christ et les sectes. Les sectes lient les gens, obligent les gens de faire les choses pour être sauvés. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Amen. Et les bonnes œuvres que nous faisons sont le résultat de notre salut. Ce n'est pas pour payer notre salut. Amen. Amen. Mais j'ai entendu dire, oh, mais il y avait des versets bibliques, donc évidemment c'est chrétien. Non. Est-ce que vous savez que la Bible dit, il n'y a point de Dieu? Est-ce que vous savez que la Bible dit ça? Regardez dans votre Bible, le psaume 14, verset 1. La Bible dit, il n'y a point de Dieu. John, tu blasphèmes dans l'église. Mais c'est écrit dans votre Bible. Seulement, ce n'est pas tout ce que la Bible dit en psaume 14, 1. Et ce que nous avons besoin d'apprendre, c'est de lire tout ce qui est marqué et pas une partie, n'est-ce pas? Oui? Moi, je vous ai déjà dit, écoutez encore, qu'un texte sans le contexte peut être un prétexte. Il dit au chef des chants de David, « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » Ça change tout, non? Pourquoi vous dites ça? Laisse-moi partager quelque chose de très personnel. Mes parents se sont rencontrés dans l'étude biblique dans les années 50. Celui qui dirigeait le groupe les a expliqué que l'église traditionnelle, il n'y avait pas d'église catholique, charismatique ou évangélique, il y avait très peu, il y avait des églises traditionnelles, donc ils sont en Angleterre, oui, ils ont dit que l'église traditionnelle est dans l'erreur. Point. Donc il ne faut pas y aller. Après, il a dit, la Bible est très compliquée et il ne faut pas le lire tout seul parce que vous allez mal interpréter. Et il a dit, il faut me suivre pour que je puisse l'interpréter pour vous. Hello? Donc, il était un médecin, un psychiatre avec un grand intellect. Il a soudoyé, c'est ça le mot? Beaucoup de gens. C'était pas pour des gains, mais mes parents, de ce moment, ont quitté l'église. Ils n'avaient pas rencontré Jésus comme leur Seigneur sauveur. Ils cherchaient Dieu. Je parle des années 50, on parle de 60, quelques années passées. Ouais. Et mon père a arrêté net de lire la Bible. Ma mère continuait en cachette de lire sa Bible, mais j'étais élevé avec mes deux sœurs et mon frère dans une maison où on n'allait pas à l'église, on ne priait pas, on ne lisait pas la Bible à cause de ce que cet homme, ouais, les a convaincus. Okay? Donc je parle de quelque chose que j'ai vécu. Allô? Quelle était l'erreur? L'erreur, c'était de croire un homme. Oui. L'erreur, c'était d'abandonner l'Église. Oui. Est-ce qu'il y a une Église parfaite? Est-ce que notre Église est parfaite? Parce que si l'Église est parfaite, vous devrez être parfaite parce que l'Église est faite de nous. Et je suis le premier à dire, Dieu a fait beaucoup d'œuvres dans ma vie. Je suis avancé avec le Seigneur depuis des années maintenant, mais je ne suis pas encore arrivé à la perfection. Est-ce que quelqu'un est arrivé? Parce qu'on va avoir besoin de prier pour les menteurs si quelqu'un lève la main. Oui, tu vois, je tiens ma main. L'Église n'est pas parfaite. Et nous allons bien. Et l'Église va bien. Notre Église est une Église. Moi, je conseille tout le monde qui habite à Nice. Viens à notre Église. Vous serez bénis. Vous allez pouvoir grandir dans le Seigneur. Mais ce n'est pas parfaite. Est-ce que Dieu nous attend parfaits pour pouvoir nous utiliser? Regarde ce qu'ils ont choisi. Oui, parmi les disciples pour devenir des apôtres. Ils n'étaient pas parfaits, n'est-ce pas? Mais Dieu les a utilisés pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les malades, pour chasser les démons et pour établir l'Église. Donc, il était dans l'erreur de ce part. Et il y a beaucoup, beaucoup de bonnes églises aujourd'hui. Il y a beaucoup de bonnes églises ici à Nice. Gloire à Dieu. Amen. Parce que j'entends les gens dire, mais nous sommes le seul Église. Vous pensez que Dieu est si limité que ça? Mais c'est une erreur. Oui, mais j'aime pas comme l'autre façon que les autres font. Ça vous regarde. Oui? Normalement, nous sommes dans l'église parce qu'on aime la façon que ça se fait dans notre église. Et peut-être on ne fréquente pas notre église parce que c'est différent et ça ne nous convient pas. Mais ne critiquons pas ça. Parce que d'autres, ça leur convient et ils ne seront pas à l'aise chez nous. Nous voulons gagner cette ville. 350 000 personnes ne peuvent pas entrer dans notre bâtiment. Pour l'instant. Non, mais on aurait toujours besoin des autres, d'accord? C'est comme les familles, ils sont tous différents. Amen. Donc, première chose, ils ont dit, l'Église est dans l'erreur, donc ne va pas à l'Église. Après, ils disent, vous ne pouvez pas lire la Bible pour vous-même. Moi, je dis, c'est 100% l'erreur. Vous devrez lire la Bible pour vous-même et vous devrez juger tout ce que vous entendez, tout ce que vous lisez à travers les pages de ce livre. Amen. Mais vous aurez toujours besoin d'hommes et femmes de Dieu, des bons livres, des enseignements pour vous aider aussi. Amen. Mais ne suivez pas la tête baissée aucun homme, aucune femme. La puissance de Dieu peut se manifester dans leur vie, mais il y a un seul Jésus-Christ. Et il a décidé de donner à l'Église, oui, différents dons, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, pour l'édification du corps du Christ. Amen. Il n'a pas dit, je vous donne un prophète, je vous donne un homme ou une femme. Non. Et chaque fois que vous entendez quelqu'un et il parle seulement d'une personne, une personne, une personne, vous dites, il va être déséquilibré sous peu. Parce que nous avons besoin. Et moi, j'ai beaucoup apprécié, vous comprenez. Nous étions à l'école de Kenneth Hagin. Un homme de Dieu absolument remarquable. Le fruit continue. Amen. Ouais, il est décédé, il est parti au ciel. Son fils a repris le manteau et ça a grandi depuis qu'il est parti. Amen. Il a un impact dans ma vie, mais je n'étais pas sauvé chez lui. Ouais, j'étais pas baptisé du Saint-Esprit chez lui. Ouais, j'ai pas rencontré ma femme là-bas non plus, parce que les gens racontent toutes sortes de choses. Ouais, ouais. J'ai pas reçu mon appel pour la France quand j'étais aux États-Unis. J'ai reçu avant que j'ai même pas entendu parler de Kenneth Hagin. J'apprécie beaucoup Kenneth et Gloria Copeland, mais je refuse de suivre un homme, une femme, un mouvement. Hello, je suis en train de suivre Jésus-Christ. Vous comprenez pourquoi, je fais attention avec ce verbe. Parce que si je suis Jésus-Christ, vous allez dire, oh là là, complexe de Messie, notre pasteur est devenu... Non, je suis en train de suivre. Fais attention avec la langue française, n'est-ce pas? Je suis en train de suivre Jésus-Christ, et vous aussi. Mais pour avancer, il faut que vous ouvrez votre Bible. Donc, regardons quelques exemples pour que nous comprenions, oui, pourquoi les livres sont écrits. Nous sommes dans les psaumes, vous continuez à droite, vous allez trouver les proverbes. Tournez et on va lire Proverbes 1, 1 à 5. Et pourquoi c'est important? Parce que cette parole nous a été donnée pour nous libérer. Amen. Et vous avez toute la Bible. Oui, j'ai dit ça la semaine passée, mais il faut le dire encore. Certaines personnes vont dire que c'est plus la peine de lire l'Ancien Testament parce que nous sommes sous la meilleure alliance, donc l'Ancien Testament n'a rien à nous enseigner. Mais quelle erreur! Timothée a dit, toute écriture est inspirée de Dieu et le Nouveau Testament n'était pas écrit quand il a écrit ça. Il parlait de l'Ancien Testament. D'accord? Écoute ceci et dis-moi si on a besoin de lire les proverbes. Vous êtes là, Proverbe 1? Hein? Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. 2. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence. 3. Pour recevoir des leçons de bon sens. Est-ce que quelqu'un ici a besoin d'un peu de bon sens? Ouais, si vous êtes jeune, faites comme moi. J'ai commencé, j'avais même pas encore 15 ans. Et j'ai lu ça et je dis, ah, du bon sens. À 15 ans, on a tout sauf le bon sens. Beaucoup d'énergie, beaucoup de zèle, beaucoup de peps, mais pas de bon sens. Et je me suis mis à lire les proverbes et ça m'a donné du bon sens. Il est écrit pour que vous ayez le bon sens. Et certains d'entre nous, nous sommes plus jeunes. On est moins jeunes maintenant, n'est-ce pas? Oui, mais on a encore besoin du bon sens. Vous lisez les proverbes, ça va vous donner du bon sens. Oui. De justice, l'équité, de droiture, verset 4, pour donner aux simples du discernement. Avez-vous besoin de discernement? Oh, hallelujah. Au jeune homme de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute. Et il augmentera son savoir. Est-ce qu'il y en a des sages ici? Ça suffit ou vous voulez augmenter votre savoir? Oui. Et celui qui est intelligence acquérera de l'habilité. Pourquoi lire les proverbes? Voilà pourquoi. Amen. Moi, j'ai toujours dit, quelqu'un a dit ça quand j'étais tout jeune chrétien, il y en a 31, dans les plupart des mois, il y a 31 jours, lire un chapitre de proverbes chaque jour. Et je n'ai pas fait ça à 100%. Mais depuis les derniers 40 ans, j'ai raté quelques jours seulement. Et je continue à lire, et je continue à lire. Et c'est extraordinaire, tu relis et dis, oh, j'ai jamais vu ça avant. Oui, peut-être j'étais pas apte, peut-être j'étais pas prêt. Oui, peut-être ma pensée était ailleurs, mais je trouve qu'il y a toujours quelque chose de formidable dans les proverbes à lire. Amen. Et tournez avec moi dans l'évangile de Jean. Pourquoi vous dites tout cela? Parce que je veux. Nous désirons cette année que nous entrons dans une plus grande liberté. Il y a quelque chose qui se passe quand on se met à lire la Bible tous les jours. Pourquoi? Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, vous allez découvrir les choses et vous dites, oh là là, mais je m'appelle, ma grand-mère a dit ça ou ma mère a dit ça. Je dis, oh, c'est biblique. Beaucoup de ces bons dictons viennent de la Bible et si nous ne lisons pas la Bible, on ne va jamais savoir. Mais l'instant que tu le vois est en noir et blanc dans votre Bible. Est-ce que c'est votre Bible? Est-ce que vous aimez ce livre? Ça doit être votre bien le plus précieux. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a la liberté là-dedans. Il y a des semences de vie. À une époque, j'appelais ça mon sac de semences. Mais il faut pas que je garde les semences dans le sac. Si vous gardez les semences dans le sac, vous savez, votre jardin va être que des mauvaises herbes. Il faut sortir les semences du sac, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit en Jean 20, versets 30 et 31? Je tourne la page pour le trouver. Voilà. Jésus a fait encore, en présence des disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean a écrit l'Évangile, oui, pour que vous croyiez, quoi? Que Jésus est le Christ, oui, et en croyant cela, que vous ayez la vie, Zoé, la vie de Dieu, cette vie abondante, cette qualité de vie avec Dieu. Amen. C'est pourquoi nous lisons ou nous devons lire l'Évangile de Jean. Et avec chacun des épîtres, avec chacun des évangiles, avec chaque livre dans l'Ancien Testament, il y a quelque chose pour nous de saisir. Dans les Galates, c'est la liberté. Je répète encore, ouais. Voilà. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ça veut dire que c'est possible, les amis, de commencer, ouais, avec une grande liberté en Jésus et après d'être, devenir esclave à nouveau. Ah oui, mais vous savez, un bon chrétien doit faire ceci, un bon chrétien doit faire cela. Et les gens veulent nous dire ce que les bons chrétiens doivent faire, mais ils ne le font pas eux-mêmes. Beaucoup de gens sont en train, ouais, de dire, tu dois faire ça et ça et ça. Regarde ce qu'ils sont en train de faire. Et ce verset, ça c'est verset 1, 13, Galates 5, 13, il dit, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. » Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour de vivre selon la chair, mais rendrez-vous par l'amour serviteurs les uns pour les autres. La liberté d'aimer, la liberté de servir. Hallelujah. Amen. Merci Seigneur. Revenons à notre sujet. Libre de la crainte. Dis avec moi, libre de la crainte. Certaines personnes vivent et meurent dans la peur, dans la crainte toute leur vie. Et Dieu ne veut pas que vous vivez dans la crainte. Pourquoi? Parce que la crainte est opposée à la foi et la foi fait plaisir à Dieu. La foi donne place à Dieu dans notre vie. La peur et la crainte donnent place au diable. Hello? Donc, il y a un livre dans la Bible qui est un peu plus compliqué peut-être que les autres, où on a besoin vraiment de discerner. Il s'appelle le livre de Job. Avez-vous lu le livre de Job? Si vous voulez vous endormir vite le soir, vous commencez à lire quelques chapitres dans le livre de Job parce que vous êtes... C'est compliqué parce qu'on a toujours besoin de dire, mais qui est en train de parler? Pourquoi il dit ce qu'il dit? Mais il y a des choses qu'on peut apprendre dans le livre de Job et deux choses en particulier que je veux vous donner aujourd'hui. En Job 3, 25, très très important parce que nous sommes en train de parler de vivre libre de la crainte, Job vivait dans la crainte. Il était l'homme le plus prospère. On ne sait pas exactement quelle époque il a vécu, mais on pense que c'était au même moment qu'Abraham, plus ou moins à cette époque. Et ce qui s'est passé dans le livre de Job, les érudites, et je ne suis pas, oui, donc je lis après les autres, disent que ce qui s'est passé entre 9 mois et 18 mois. Ce n'était pas toute sa vie. Oui. Et ce que Job a vécu, oui, les épreuves de Job, oui, ils n'ont pas fini avec ces épreuves. Quelquefois, on lit le commencement d'un livre et on ne le finit pas. Une chose que j'ai appris, oui, si vous fatiguez au milieu d'un livre, au moins lis le dernier chapitre. Oui. Est-ce qu'elle va marier avec ce beau garçon qui est arrivé? Oh, je me perds au milieu. Donc, lis le dernier chapitre et vous saurez. Amen. Non, mais si vous vous perdez dans la Bible, retournez en Apocalypse, c'est le dernier chapitre. Oui. Et nous retrouvons Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et nous partons au ciel. Hallelujah. Je ne pense pas qu'on lit assez, oui, l'Apocalypse. Mais ici en Job, Job 3, 25, Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. L'opposé de la foi, il a donné place à la crainte. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Ouch. Ce que je crains m'est arrivé. OK? Est-ce que c'est la fin de l'histoire? Non. Mais il faut que je vous dise quelque chose avant que nous arrivons, parce qu'on va, oui, pas parcourir tous les chapitres. Je vous encourage à lire au moins une fois dans votre vie. Mais nous avons beaucoup de discours qui sont faits par les amis de Job. Mais la plupart de ses amis, et surtout sa femme, a des choses que nous ne pouvons pas suivre comme conseil. Regardez Job 2, verset 9. La femme de Job. Il faut choisir bien son conjoint. Vous êtes là? Oui. Job 2, 9. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Est-ce qu'on devrait applaudir cela? Vous aimez les gens qui demeurent fermes dans leur intégrité? Est-ce que c'est une bonne qualité chrétienne pour un homme, pour une femme? Oui. Elle dit, tu demeures ferme dans ta intégrité, dans ton intégrité. Et elle dit, maudit Dieu et meurt. Qui pense que c'est un bon conseil donné par la Bible? Est-ce que vous croyez que c'est un bon conseil? Absolument pas. Absolument pas. Maudit Dieu et meurt, c'est pas une option. D'accord? Mais c'est écrit dans votre Bible. Donc il faut savoir qui l'a écrit et dans quelle attitude elle était. Donc je voulais que vous marquiez ça. Donc on va sauter quelques pages. Ça vous va? Oui? Job 42, verset 10. Parce que la fin de Job n'est pas des ulcères et des maladies et toutes ses possessions perdues et volées. Ouais. La fin de Job, je dis ça parce que quelquefois on passe par ces moments, n'est-ce pas? On a l'impression que Dieu même a tourné son dos sur nous. Mais vous savez, peu importe vos impressions, nous ne marchons pas par nos impressions. Nous ne marchons pas selon nos sentiments, nous marchons par la foi. Et la foi, écoutez-moi bien, est toujours fondée sur la vérité. La foi est toujours fondée sur la parole de Dieu. Donc, Proverbe 42, verset 10. Nous sommes à la dernière chapitre. C'est pas Proverbe? Job, je voulais voir si ma femme était réveillée. Elle avait dit qu'elle avait un problème de décalage horaire, donc ça va, elle est bien réveillée. Job 42, excuse-moi, c'est ma faute, oui. Job 42, 10. Je me rappelle avoir fait une faute aussi en 85 et je me suis repenti de celui-là. Vous savez, on ne rigole pas assez. Et surtout, vous savez, il faut qu'on se moque un petit peu de nous-mêmes, n'est-ce pas? Parce que quelquefois, on est tellement sérieux avec nous-mêmes. Ouais? Et un bon cœur, un cœur joyeux est un bon remède. Donc, on est où? Job 42, 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand? Quand? Non, je veux savoir quand. Parce que, oui, il a eu 9 mois ou 18 mois de le plus pénible que quelqu'un peut vivre, d'accord? Mais quand est-ce que Dieu l'a établi? C'est très important. Mais pourquoi j'arrête de dire quand? Quand il a prié pour ses amis. Moi, je dis, il y a deux grandes leçons à apprendre du livre de Job. Un, c'est que ce que vous craignez, c'est ce qui va vous arriver. Donc, ne craignez pas et ayez confiance en Dieu. Croyez les promesses de Dieu. Doutez vos craintes et croyez la promesse de Dieu, d'accord? Donc ça, c'est la leçon. Je ne donne pas place à des craintes. Je ne donne pas place à la peur. Je donne place à la parole. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut que j'enlève ma tête de la boue. Il faut que j'enlève ma tête de mon nombril. Parce que certains ont leurs yeux tellement fixés sur le nombril. Oui, vous ne l'avez jamais fait, n'est-ce pas? Mais d'autres ont fait, vous leur parlez comment ça va et ils vous racontent tout le problème qu'ils ont vécu depuis qu'ils sont nés et même avant qu'ils sont nés. C'est vrai? Et vous dites, mais vous allez, il faut lever la tête. Jésus a dit ça. Il dit, levez la tête et regardez les champs qui blanchissent pour la moisson. Quand Job a prié, quand il a enlevé ses yeux de lui-même, et je sais, oui, si quelqu'un était malade ici, vous savez comment c'est tellement facile quand on est malade et on souffre dans son corps de fixer nos yeux là-dessus. Mais il faut lever la tête et dire, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un pour qui je peux prier? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un que je peux aider? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je peux faire pour m'enlever? Oui, il ne faut pas que je suis le centre de l'univers. Vous êtes d'accord? Ça, c'est une grande leçon, moi, je crois qu'on apprend de Job. Oui, il était craintif parce qu'il avait ses yeux toujours sur ses enfants. Ses enfants faisaient la fête et il était toujours en train de faire des sacrifices en cas qu'ils avaient péché. Mettez un peu de confiance dans vos enfants. Oui, mais John, ils font des bêtises. Est-ce que quelqu'un ici a eu des enfants qui n'ont pas fait des bêtises? quand il a prié pour ses amis. Écoutez bien. Et l'Éternel lui accorde à quoi? Le combien? Le double de ce qu'il avait possédé. Il n'a pas fini avec rien. Et vous ne terminerez pas avec rien. Oh. Sachons-nous que cette terre, c'est un clin d'œil. Nous partons pour le ciel où c'est pavé d'or. Amen. Mais nous ne terminerons pas si nous avons confiance dans le Seigneur avec rien. Job a terminé avec le double et après il donne la liste et vous pouvez lire. Et je pense à sa femme qui a dit « Maudit Dieu, elle meurt ». Oui, elle a vécu les conséquences parce qu'elle a couché encore 10 enfants. Elle aurait dû se taire, n'est-ce pas? C'est une interprétation personnelle, d'accord? Regardez avec moi, Jacques 1, 16 et 17. Peut-être que je n'aurais pas dû dire ça, mais... Jacques 1, 16 et 17. Il est écrit, « Ne vous y trompez pas, frères bien-aimés. » Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. C'est écrit à qui? À nous, aux frères, aux chrétiens, à l'Église, n'est-ce pas? Et quand la Bible dit « ne vous y trompez pas », il est écrit parce que quelqu'un est en train de se tromper. Et il se peut que vous vous êtes trompé. Peut-être vous avez pensé que Dieu a changé d'avis. Mais écoute ce qu'il dit, ne vous y trompez pas. Toute grâce excellente et tout don parfait descend en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Verset 13, en cas que vous n'avez pas vu, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Vous entendrez les gens quand quelqu'un est en train de vivre mal avec, mais peut-être le Seigneur a envoyé ça pour vous enseigner quelque chose. Est-ce que vous avez appris qu'on peut apprendre de nos malheurs? Mais ce n'est pas le Seigneur qui nous a envoyé les malheurs. C'est le diable qui vient. Jésus l'a dit. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Vous avez vu Jésus dans aucun des évangiles, dans aucune histoire, en train d'enlever? Ah oui, il y avait cette personne. Tu te rappelles cette personne qui est en train de la manger? Il a pris son sac avec l'argent et parti. Non? Et le matin, il se levait et il dit, « Oh, j'ai un mot de tête, les apôtres, vous allez guérir les malades, je ne peux plus. » Vous avez vu ce verset? Non? Ou le verset quand il a dit, « Mais renvoie ces idiots, ils ne comprennent rien. » Vous avez vu ce verset? Ils ne sont pas là, n'est-ce pas? Ils ne sont pas là. Pourquoi? Parce que Dieu ne change pas. Je ne veux pas être irréligieux là. Mais quelquefois, on a cette impression, tu vois, que quelquefois, Dieu se lève et il a eu une mauvaise nuit et il va nous punir. Hein, il n'a pas eu son café et là. La Bible dit, ne vous y trompez pas, oui, toute grâce excellente et tout don parfait descend en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement. Il a décidé, je vais vous donner seulement la moitié du verset, Jean 10, 10. Deuxième moitié, dit, Jésus dit, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'il ait la vie en abondance. Jésus était connu pour donner des aumônes aux pauvres. Oui. Quand Judas est allé le trahir, les autres ont pensé qu'il est parti pour donner encore aux pauvres. Il nourrissait les multitudes, il purifiait les lépreux, il touchait les gens qui étaient intouchables, il guérissait la main, il élevait tout le monde, il respectait les gens qui étaient rejetés par la société. Ça, c'est notre Jésus, et il n'a pas changé d'avis. Et il ne changera jamais. Il vous aime. Hallelujah. Gloire à Dieu. Romains 8, 15. Encore quelques versets à vous donner, mais ça va être des versets libérateurs. C'est quelque chose de formidable parce que cette vérité que Dieu vous désire libre de la crainte, ouais, ça parcourt la Bible. Il ne veut pas. Vous voulez que vos enfants vivent dans la crainte? On veut que nos enfants vivent dans la paix, dans la tranquillité. Certains de vous n'avez pas vécu dans la paix et la tranquillité chez vous. Et vous avez su que ce n'était pas correct. Vos parents auraient pu vous protéger, n'est-ce pas? Et nous devons protéger nos enfants. Vous êtes d'accord? Il faut qu'ils vivent, qu'ils jouissent de leur enfance. Amen. Et Dieu veut qu'on jouisse de la vie. Romains 8, 15. Oh, j'aime ce verset. Il dit, et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu, tout le monde dit, j'ai reçu. Vous avez reçu un esprit d'adoption par laquelle nous crions quoi? Abba, si c'était écrit en français d'aujourd'hui, il dit par lequel nous crions Papa. Il est devenu notre Papa. Et nous prions Papa, Père. Amen. Il nous a adoptés. Qu'on adopte un enfant, on va choisir cet enfant. On n'adopte pas un enfant, oui, par l'erreur. Oui. Certains ont des enfants par une erreur. Ils sont en surprise. On n'attendait pas celui-là. Qu'on adopte, c'est pas comme ça. On va chercher, n'est-ce pas? Et Dieu est venu en Jésus-Christ nous chercher. Et il ne veut pas que nous vivions dans la crainte. Je n'ai pas un esprit de crainte. Amen. Je n'ai pas un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Hallelujah. Hébreux 13. On va voir le contexte de ce verset que je vous ai donné au commencement. Tellement important. Et j'espère, moi je crois, au nom de Jésus-Christ, libérateur pour vous. Parce que si vous vivez des craintes, il faut mettre opposition à cela. Oui? Comme je dis, si la crainte ou la peur frappe à votre porte, il faut que vous ouvrez la porte avec une réponse. Oui? Et vous n'acceptez pas les paquets que le diable emmène chez vous. J'ai un paquet pour vous, il dit. Oui? Je n'accepte pas si ça vient de votre part. Amen. Mais il faut répondre avec la parole. Écoute ceci. Oui? Hébreux 13, 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Rappelons-nous que l'amour de l'argent, c'est une racine de tous les maux. L'argent n'est pas la racine de tous les maux. L'argent n'est pas mauvais. Mais l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Donc, il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Vous voulez plus? Commencez à remercier le Seigneur pour ce que vous avez. Commencez à dire, merci Seigneur pour ce que j'ai. Amen. Vous êtes à table, il n'y a que du riz. Vous dites, merci Seigneur que nous avons du riz, parce qu'il y a des gens qui n'ont rien. Merci Seigneur, nous avons des pâtes. Merci Seigneur. Dieu va ajouter ça si vous continuez à lui dire merci. Amen. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne te délaisserai point et je ne te abandonnerai point. Mais je sens plus sa présence. Quand j'ai accepté Jésus, oh, j'avais des frissons, j'avais la chair de poule. Oh là là, c'était Dieu m'a envahi, mais j'ai plus ces sentiments parce que je crois que Dieu m'a quitté. Donc, quel terrible péché avez-vous commis pour qu'il te quitte? Ah, mais je sais pas, j'ai regardé dans mon cœur, je suis repenti des fautes que j'ai faites, mais je ressens plus. La Bible dit, nous marchons par la foi, pas par la vue. Vous voulez avoir des expériences avec Dieu? Commencez à déclarer ses promesses. Commencez à déclarer la parole de Dieu, peu importe ce que vous êtes en train de ressentir. Et je vous promets, vous aurez des expériences avec Dieu. Et vous dites, waouh! Moi, j'ai pensé que c'était seulement pour le nouveau-né, pour le nouveau chrétien. Non, c'est pour nous, pour toute notre vie. Mais je me lève pas le matin et dis, qu'est-ce que je ressens pour Laura? Non, je ne sens pas. Je ne sens pas aujourd'hui. Peut-être qu'elle n'est pas ma femme aujourd'hui. Peut-être, ouais. Moi, je ne pose pas cette question. Je me suis engagé envers elle. Elle est ma femme et je l'aime. Oui, je le ressens, je ne le ressens pas. Je le dis et vous savez, les sentiments suivent vite. Surtout si je lui dis. Parce que je dis, je t'aime, elle m'embrasse. Et tu sais, il y a des sentiments qui arrivent. Dieu dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, qu'est-ce que nous pouvons dire? Parce que Dieu a fait une promesse envers nous. Qui ne nous laissera jamais, nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme? Donc, on ne prend pas le temps, mais on va revenir là-dessus. Parce que la crainte des hommes, c'est une crainte tout particulière. Et on va traiter ça aussi, parce que Dieu veut qu'on soit libéré, oui, et que nous soyons libres de la crainte. Amen? Ok, encore trois versets, ça va? On retourne en Jean 14, on a déjà entendu ce matin que Jésus est parti nous préparer un manoir, un château. Ça, c'est quelque chose de formidable, n'est-ce pas? Surtout si vous êtes dans le studio et vous avez vu sur mur. Ouais. On a tous vécu là, n'est-ce pas? Mais remercie le Seigneur que tu as un toit au-dessus de votre tête. Amen. Hallelujah. Mais Jésus est parti nous préparer, ouais, une place et en Jean 14, 18, il est écrit, « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Les disciples étaient perturbés quand il dit « Je pars. » Il dit « Mais je ne vous laisserai pas orphelin. » Verset 23, Jean 4, 23, un verset absolument formidable. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aime Dieu? Vous aimez Dieu? Vous lui dites? C'est bon de lui dire. Il aime entendre ça. Amen. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Donc, est-ce qu'on peut comprendre cela? Jésus est parti faire une demeure pour nous au ciel, mais entre-temps, il est venu par son esprit avec le Père établir sa demeure en nous. Alléluia. Je ne suis plus jamais seul. Je peux bannir la crainte. Je peux bannir la peur de mon cœur en déclarant ça. Jésus habite dans mon cœur par son esprit. Et le Père est venu demeurer, il est avec moi. Amen. Toujours. Je le ressens pas, ça fait rien, il a dit, il est là. Amen. Plus que vous le dites, plus que vous allez sentir. Ok, dernier verset, Matthieu 28, 20. Fin du chapitre de Matthieu, Jésus est ressuscité d'entre les morts. La dernière chose qu'il va dire, ça doit être important. Amen. Qu'est-ce qu'il va dire? Matthieu 28, 20, il dit, ok, vraiment la dernière, je parle de Matthieu 28, 20, B. Et voici, je suis avec vous de temps en temps. Les dimanches, quand vous venez à l'église, il y a certains qui croient ça encore. Mais s'il vous plaît, si vous rencontrez Jésus ici à l'église, oui, il veut partir à la maison avec vous. Vous ne le laissez pas ici, il ne veut pas rester seul dans le bâtiment. Oui, on va fermer les lumières, tu sais. Il faut être, non, Jésus ne reste pas ici, il veut rentrer avec vous. Et la paix et la joie que vous rencontrez ici, ramène ça chez vous. Amen. Il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et nous ne sommes pas encore y arrivés. Amen. Nous sommes libres de la crainte. Amen. Il faut le dire tous les jours. Amen. Je suis libre de la crainte. Dis avec moi, je suis libre de la crainte. Amen. Hallelujah. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc ce verset, on va remettre, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Hébreux 13, 6. Voilà. Le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Je vous invite à vous lever. Oh, que c'est bon. N'est-ce pas? Ça nous fait du bien. Oui? Il n'y a rien à craindre quand vous savez que Jésus demeure en vous. Le Père est venu, oui, faire sa demeure en nous. Donc, avant que nous partons en compagnie, j'ai plusieurs choses dans mon cœur. Tout particulièrement, si vous n'avez jamais invité Jésus dans votre cœur, ouais, je ne veux pas que vous partez seul, parce qu'il veut partir avec vous. Et nous allons prier un prière ensemble. Ou peut-être, à une époque, vous avez connu le Seigneur, mais vous êtes éloigné du Seigneur. Ce n'est pas compliqué d'inviter Jésus d'entrer dans votre cœur. Donc, on a mis une prière, vous pouvez prier ça avec nous. Et on va prier tous ensemble. Dis ceci avec moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort à ma place. Je crois que tu as payé pour mes péchés. Et je crois que tu es ressuscité le troisième jour. Je me repens de mes péchés, car tu es fidèle et juste pour me pardonner. Jésus, viens régner dans mon cœur. Tu es mon Seigneur et Sauveur personnel. Je suis conscient que maintenant je suis enfant de Dieu. Et j'ai la vie éternelle. Je le crois et je suis sauvé. Hallelujah.